Bonjour les spotters. L'actualité du numérique avec Alain Garnier.
Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et aujourd'hui, on va parler d'une étude Pollenroll qui a travaillé sur la question, qui a fait un sondage auprès d'un justement un échantillon représentatif, plutôt alors B2B, on est dans l'entreprise, autour de la question de la souveraineté numérique et les outils collaboratifs. Voilà. Étude évidemment qui du coup nous donne des éléments rationnels un peu pour parler de nos sujets qui nous passionnent, la souveraineté numérique. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, ça y est, les petites lumières clignotent, on se rapproche de Noël. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et alors donc, on a fait un webinaire justement pour ça aussi, dans lequel j'ai eu le plaisir d'avoir quelqu'un qui connaît très bien ces sujets-là et qui les défend, qui s'appelle Philippe Latombe, député de Vendée, et qui est effectivement très très actif sur ces sujets. Donc, il a apporté pas mal de commentaires. Et moi, je voulais justement redonner un peu une synthèse des chiffres qui sont vraiment marquants. Et vous pouvez aussi aller voir le webinaire qu'on a fait avec le député Latombe, et également l'étude, je mettrai après dans le lien, justement pour pouvoir la télécharger avec tous les chiffres, parce que comme ça, vous pourrez faire votre opinion, mesdames et messieurs. Alors, j'ai noté trois grandes parties, moi, qui me paraissent très importantes. Un, les enjeux. Deux, la partie des normes et des lois. Et trois, la question des outils, parce qu'on va parler un peu des outils. Alors, si on regarde d'abord, première question sur les enjeux, eh bien oui, la question de la souveraineté numérique n'est plus un sujet qui est perdu au milieu de rien, vu qu'on a 93% qui la connaissent, 80%, 8 sur 10, qui considèrent que c'est très important. Et donc là, on est vraiment au cœur un peu d'un enjeu qui est devenu important. Alors, la question par contre, c'est de rester libre par rapport à ça. Donc, il y a une première petite tension dans cette étude, ou plutôt paradoxe ou oxymore, vous appelez ça comme vous voulez. Parce qu'en fait, il y en a seulement 2 sur 10 qui pensent que c'est la loi qui doit faire ça, qui doit décider quelles sont les numériques qu'on doit avoir dans les entreprises. Et en revanche, ils sont à 7 sur 10 à penser que c'est le dirigeant qui doit l'imposer aux équipes. Donc, on voit bien qu'en fait, c'est bien, je veux pas qu'on m'impose, mais moi, je veux imposer, hein, si on regarde les décideurs à qui on a posé cette question. Et on reviendra un peu plus loin, qu'il y a un deuxième oxymore sur cette histoire du rapport à la loi. Donc, premier point, et ça, je pense qu'on l'avait vu à un moment donné. Et d'ailleurs, par exemple, le fait que le ministre a donc maintenant le ministre de l'Industrie, le MINEFI, donc, et également le ministre du numérique, à souveraineté numérique dans son titre. Ça prouve effectivement que c'est un sujet maintenant d'actualité. Enfin, plus que d'actualité, d'enjeu définitif. Deuxième point, eh oui, la norme et les lois, parce que derrière tout ça, justement, eh oui, on essaye de mettre des normes et des lois pour cadrer un peu cette souveraineté numérique. Alors, quand on regarde les lois, en fait, il y en a des anciennes qu'on ne met pas toujours sous cet angle-là, qu'il ne faut pas oublier. La plus connue, c'est le RGPD, 70% des gens, hein, 68% pour être précis. Ensuite, on a par exemple le DMA-DSA, hein, aux alentours de 30, 31, 33, c'est à peu près pareil, connu. Un peu au-dessus, légèrement, le SecNum Cloud avec 35%. Donc, on voit que les normes autour de la souveraineté, hein, il y en a celles qui sont vraiment, qui sont maintenant installées dans le paysage. Il n'y a plus qu'un tiers des gens qui ne savent pas trop ce que c'est. Et il y en a où c'est l'inverse, c'est les deux tiers qui ne savent pas ce que c'est, comme par exemple DMA, SecNum Cloud, etc. Alors, petite absence, c'est intéressant, et c'est la deuxième fois qu'on fait cette étude, donc on voit aussi les évolutions. Hein. Donc, par exemple, là, on voit que SecNum Cloud a marqué, je ne sais plus, 3 ou 4 points de croissance. C'est pas tant que ça d'ailleurs, mais c'est un petit peu quand même. C'est qu'il manque des normes qui arrivent. Et oui, EUCS, par exemple, l'équivalent, ou équivalent, ça pourrait faire un autre live de SecNum Cloud, c'est-à-dire la question justement des niveaux de sécurité européens, qui est en plein débat en ce moment, on ne l'a pas sondé, il faudra qu'on le sonde, je pense, l'année prochaine, et NIS 2, hein, donc, encore une fois, ce n'est pas la ville numéro 2 qu'on a dupliquée, hein, bien connue, non, c'est NIS 2, et donc c'est l'équivalent, pareil, si je veux un peu simplifier pour faire un peu de pédagogie, de ce qu'on a vécu pour le RGPD, mais pour la cyber. Et donc, ça va s'appliquer à des milliers d'entreprises qui vont devoir mettre en place, justement, des normes autour de ces questions de cyber. Ça arrive normalement en octobre 2024, donc c'est demain. Et vous voyez, par exemple, typiquement, ce n'est pas encore dans le paysage. C'est ce qu'on se faisait comme réflexion, effectivement, également avec monsieur le député. Et alors, ces normes-là, souvent, on me dit « Oui, il y a trop de normes, c'est compliqué, etc. » C'est vrai que, à chaque fois, on se dit « On a encore ça à digérer, etc. » Mais en fait, 81% des décisionnaires trouvent que, justement, ces normes permettent de faire rayonner la France et l'Europe au niveau mondial. en devenant exemplaire. Et c'est vrai, le Japon nous a copié le RGPD, comme la Californie. Et là, quelque part, on est en train aussi de construire, par exemple, avec ces questions de UCS, un peu ce que la France peut faire. On, quelque part, ces normes, c'est aussi ce qui nous protège d'un modèle chinois qu'on n'a pas forcément envie de répliquer, ou d'un modèle américain qui est totalement centré sur le profit des grandes entreprises, les fameuses GAFAM, pour ne pas les citer. Donc, en fait, trouver une fameuse troisième voie, c'est ce qu'essaie de faire d'ailleurs Thierry Breton avec tous ses actes, hein, parce qu'il en a fait un paquet, le DMA, le DSA, l'IA Act, sur lequel il va travailler. Donc, première, vraiment information clé de cette étude, non, ces lois ne sont pas des problèmes, ce sont des opportunités pour les entreprises, c'est les décisionnaires qui le disent. Voilà, donc il faut sortir un peu de la doxa habituelle dans laquelle on dit oh, « oui, oh là là, nous on passe notre temps à légiférer en Europe ». Ben oui, c'est aussi une façon de construire en fait notre chemin. Et les Américains sont bien connus pour être des grands juridicophiles, pour dire les choses comme ça. Numéro 3, les outils. Ah, alors les outils, de quoi on parle? Alors, d'un point de vue quali déjà, eh ben, en fait, on regarde quels sont les outils les plus déployés dans le monde de la collab. Sans surprise, 1, messagerie, 2, visio, hein, qui est passé devant la bureautique, 3, la bureautique. Bon, voilà, ça c'est le triptyque historique qu'on connaît depuis finalement assez longtemps. La visio, elle a accéléré évidemment avec le Covid et puis tout le télétravail. Petite nouveauté, le fameux réseau social d'entreprise passe devant l'intranet. Donc on voit en fait, et nous, bah nous vu que c'est un peu notre domaine, en fait nous on voit ce qu'on appelle des intranets collaboratifs qui souvent mettent le RSE plus l'intranet égale la Digital Workplace. Bon bah typiquement on voit bien que la partie, on va dire, de collaboration, de transversalité que représente le réseau social n'est plus une option parce qu'il passe devant l'intranet un peu descendant. On en avait déjà parlé dans une étude qu'avait fait aussi Arctus, hein, qui avait aussi montré ça sur le terrain. Donc là, ça se confirme en termes d'ordre, même dans le classement. Même si, parce que prendre une place dans le classement à la vitesse où ça va, hein, la messagerie, elle est là depuis 40 ans. Donc vous voyez, c'est une place de gagner. Ça veut dire que c'est beaucoup d'efforts de changement. Un chiffre qu'on peut analyser en plus ou en moins, 11% des entreprises sont équipées d'outils collaboratifs souverains. Alors 11%, on peut dire c'est peu, mais d'un autre côté, c'est pas zéro. Ça veut dire que c'est possible. Et en fait, on a beaucoup plus d'entreprises que ce qu'on pense qui ont des stacks qui ne sont pas les stacks GAFAM. Voilà. Ce 11% est assez intéressant d'ailleurs. En fait, il donne aussi toute la progression du marché et tout le déséquilibre du marché. Parce qu'effectivement, on pourrait imaginer, si on était à 50% par exemple, ouais, voilà, on serait dans un marché équilibré. Ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, il y a 40 points de marché à aller récupérer pour recréer la diversité européenne qu'on attend dans notre domaine. Voilà. Et alors, pourquoi? On a demandé, mais pourquoi vous avez des solutions qui ne sont pas souveraines? Alors, dans l'ordre des facteurs, 32%, je regarde mes notes pour être sûr de donner les bons chiffres, hein, parce que tout ça, c'est beaucoup de chiffres précis. 32% parce que tout le monde les utilise. Donc, l'effet un peu grégaire et qu'effectivement, un effet réseau. C'est plus simple. Quand un outil est utilisé par d'autres, bah, vous n'avez pas les problèmes de compatibilité. Vous avez, ah oui, le bouton, il est en bas. Oui, il est en bas. L'autre peut aider pendant une visio. Elle est où pour partager l'écran? J'ai vécu ça encore hier avec quelqu'un. Ah, il est là. Ah oui. Avec dans mon Teams, il est ailleurs. Oui, mais tu peux utiliser autre chose que Teams. Il n'y a pas que Teams dans la vie. Bon, voilà. Et il y a en plus une convergence, justement, de ces outils. Donc, la première raison, c'est celle-là. Une espèce de mimétisme général. Deuxième, c'est que les outils souverains ne sont pas au niveau. C'est ce que je disais, ils ne sont pas au niveau. Alors là, c'est intéressant parce que c'est vrai, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux aussi. Au niveau de quoi? Par exemple, je sais que nous, dans notre marché, bah, que ce soit sur le réseau social d'entreprise, si on est mieux disant que les GAFAM, hein, Google, il n'y en a même pas un qui tient la route, et puis Microsoft, bah, nous, notre Open Agora, il est largement meilleur que Yammer, hein, c'est dit par le marché. La même chose pour l'intranet et puis d'autres briques. Alors, est-ce que par contre, sur Outlook ou sur les macros dans Excel, bah oui, on est effectivement moins 10 ans. Donc, voilà, c'est là où il faut sortir du tout ou rien. C'est pas mieux pour tout, c'est sans doute plus différencié. Et c'est ça qui est en train d'apparaître. Et donc, à un moment donné, effectivement, la question de la complémentarité devient effectivement une vraie question. Et vous savez comment je suis adepte de la diversité. Donc, qui dit diversité, dit complémentarité. Moi, je n'ai pas de souci à ce qu'à terme, effectivement, les entreprises soient équipées de plusieurs suites collaboratives qui soient interopérables. Alors, on rentre dans un autre sujet, l'interopérabilité. Troisième raison, c'est elles sont plus chères. Alors ça, c'est marrant parce que alors là, c'est factuellement faux. Factuellement faux parce que globalement, les prix, justement, des suites américaines sont souvent plus chères que les suites européennes. Mais voilà, voilà c'est un motif, on a peur que ce soit plus cher. Et il y avait même une peur sur l'inflation. Alors là, je pense que c'est les peurs, vous savez, c'est les fantasmes qu'on a eus là, les choses vont toutes augmenter. Bah, au contraire, les suites européennes ont moins augmenté par rapport à l'inflation que les suites américaines, qui ont d'ailleurs des conditions générales de vente qui sont unilatérales pour faire des augmentations. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous, on le voit, on le suit au fur et à mesure du temps, ces chiffres baissent. Par exemple, le fait que les souvent ne soient pas au niveau, il y a un moment donné, on était plutôt à 35-37%, on est à 27%. Et donc, peut-être que l'année prochaine, on sera à 22. Et quand on sera en dessous de 15, vous verrez qu'il y aura un changement de marché. C'est-à-dire que les gens arrêteront de répéter quelque chose qui n'est pas vrai, c'est qu'ils ne sont pas au niveau. Quote. Ils ne peuvent pas déployer suffisamment d'utilisateurs. Ce n'est pas vrai non plus. Quote. Voilà. Donc, c'est aussi qu'il faut avoir en tête que les évolutions dans un marché, elles sont lentes, elles sont longues, et que les gens vivent longtemps, on vit longtemps sur nos biais cognitifs, sur nos a priori, et c'est pour ça que les choses évoluent doucement. C'est aussi ça, l'humain, il met du temps, et d'où la question du conduit, du changement, etc. C'est vrai aussi pour la souveraineté numérique, c'est vrai aussi pour les outils collaboratifs. Donc voilà, donc c'est une étude, je vais mettre le lien dans le commentaire pour que vous puissiez la télécharger, et revoir le webinaire également avec Philippe Latombe, le député qui est venu un peu analyser ces chiffres, en donnant son angle, et beaucoup d'informations aussi sur l'aspect évidemment légal qu'il y a autour de toutes ces questions. Et je vous invite à apporter en commentaire, bah, vous, ce que vous sortez justement de ces chiffres, de cette étude qu'on a sortie là, donc tout récemment, et qui va permettre un peu d'éclairer justement aussi le marché des outils collaboratifs, de la souveraineté, de tout ce marché pour l'année 2024 qui s'ouvre. Et oui, voilà, vous voyez, ma petite guirlande s'est mise à clignoter tout à l'heure, on est bien proche de Noël, on s'en rapproche, donc bientôt les fêtes, mais d'ici là, plongez-vous dans l'étude. Voilà, ça y est, hop, là, elle commence à clignoter la guirlande. Allez, sur ce, à la semaine prochaine.